Alors, bon, écoutez, ce soir, donc merci déjà d'être venu à tous là. L'idée de ce soir, c'est de vous présenter un livre blanc qui s'appelle donc Le Guide de survie sur Internet. Il m'a été en fait un peu inspiré de trois précédents livres blancs, qui étaient le livre blanc sur le hacking qui avait été présenté par Ori et Coder, les organisations malveillantes qui avaient été présentées par Coder tout seul, et les introductions au Darknet qui avaient été, on va dire, présentées par Jérém. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est une occasion de proposer quelque chose qui soit, voilà, une sorte de livre blanc socle commun pour un peu présenter en tant qu'utilisateur lambda de quoi prendre conscience de ce que c'est que déjà d'aller sur Internet et de se protéger un minimum. Voilà. Donc c'est pour ça, le livre blanc, il s'adresse vraiment à un public monsieur tout le monde, avec pas de gros, on va dire, de gros termes techniques et de grosses, on va dire, questions scientifiques. Voilà. Justement, j'allais dire, pour les modos, les admins, là, ce que je pense que je vais faire un peu, là, on va dire, pendant l'heure, je pense que je vais avancer sur le livre blanc. Ce que je vous propose, c'est de se garder les questions pour les garder après. Et s'il y a des choses je ne sais rien, qui posent des problèmes ou qui posent vraiment question, bah vous me dites, vous m'arrêtez et on regarde ça. C'est parti?
Ouais, donc notez les questions pour la fin.
Ouais, plutôt. Alors. Hop là, on va passer juste rapidement sur quelques chiffres qui sont importants. C'est les chiffres de 2021, de 2021. Alors attendez, ce que je vais faire, je vais mettre le pointeur laser. Hop. Alors, on va pas tous les regarder, c'est juste comme ça, vous laissez l'avantage du stream, c'est que vous pouvez les voir. Il y a quand même deux chiffres vraiment majeurs qui sont vraiment importants. C'est le fait de voir aujourd'hui qu'on a quand même sur nos 7,9 milliards d'êtres humains que nous sommes, on a quand même 84,66 qui sont connectés, avec une grosse partie d'utilisateurs mobiles, donc les smartphones et co. Et que ça fait quand même du monde aussi qui n'est pas connecté à Internet. Donc ça veut dire des gens qui n'ont pas accès à ce savoir. Ça, c'est quand même quelque chose qui interpelle. Beaucoup on va dire, d'utilisateurs de réseaux sociaux, c'est-à-dire en gros quasiment la majorité, c'est-à-dire 4,2 milliards, donc ça fait quand même du monde, dialogue. Un navigateur qui ressort à chaque fois de plus en plus, qui est Chrome, ça aussi ça impacte parce que ça veut dire que c'est un navigateur majeur. Beaucoup, alors celui-là c'est un chiffre que j'ai rajouté, qui est important. Parce qu'on va le voir après. J'ai du mal à trouver des chiffres vraiment super propres. En gros, 2,6 milliards de personnes qui disposent d'une adresse mail, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus. Et ça veut dire que c'est quand même l'outil majeur aujourd'hui quand même de communication, même s'il y a les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment quelque chose qui est majeur. Attendez, ce que je fais, je me lance juste un petit chrono. Hop. Ensuite, ça c'est pour les chiffres de type vraiment générique. Ensuite, il y en a vraiment qui sont super importants, c'est ceux-là. C'est des chiffres concernant la cybersécurité, qui rejoint un peu ce qu'avait dit Ori directement et Coder. On a aujourd'hui 85% des violations qui sont causées par une erreur humaine. Donc c'est pour ça c'est un chiffre qui est super important à prendre en compte. Et comme on dit en informatique, l'erreur se situe souvent entre le clavier et la chaise. Le 94% de tous les logiciels malveillants livrés par email. Donc ça veut dire que ça rejoint en fait la connexion au nombre d'adresses mail qui sont disponibles dans le monde des gens qui l'utilisent. Ça veut dire qu'on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup on va dire, d'attaques qui sont livrées par la messagerie. Autre chiffre qui est super important, c'est voilà, c'est les pour prendre un peu l'ampleur on va dire des attaques. Toutes les 10 secondes à peu près, il y a des attaques de ransomware dans le monde, c'est énorme. Elles sont toutes globalement motivées financièrement. Et alors, il y a un chiffre voilà, qui est super important aussi, c'est celui-là, c'est que le coût mondial, ça c'est pour 2021, c'est bien des 6 000 milliards de dollars. C'est-à-dire, c'est globalement deux fois le PIB de la France et un peu plus. C'est juste un chiffre qui est assez énorme. pour dire que chez, on va dire, dans le domaine de la malveillance, malheureusement, ça ramène du pognon. Voilà, donc ça c'était juste pour vous présenter ces chiffres qui donnent un peu le, comment dirais-je, un peu le sens de livre de ce soir. On va passer du coup sur le premier, on va dire, premier module que j'ai décomposé en trois petites phases qui s'appelle l'oracle et le test, où on va parler des biais cognitifs, de l'état émotionnel et Miss Click Don't Panic, vous allez comprendre en 2 secondes. Alors, je vais vous juste, c'est un petit test. Je vais lancer là dans 2 secondes une petite image. L'idée, c'est que juste dans le chat, vous me disiez ce que vous voyez sur la gauche et sur la droite. Vous allez me dire combien ça a de pattes. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc sur la gauche, me dire juste ce que vous voyez sur la droite. Combien vous voyez de pattes sur l'animal? Du canard, pas mal de canards, beaucoup de pattes. Canard et 5 pattes, c'est marrant. Tout le monde est sur le canard, c'est assez drôle. Et alors justement, une question. Allez, de toute façon, le but, on ne va pas y rester après. Qu'est-ce que vous voyez? Parce que c'est justement, c'est le but, c'est qu'en fait, on voit à la fois dans l'image de gauche, en fait, tout le monde voit un canard, mais en fonction des personnes, ben, si vous le regardez, vous pouvez voir un lapin, si vous le regardez dans l'autre sens. Et l'éléphant, en fait, c'est pareil, c'est justement, c'est fait exprès pour tromper, c'est au niveau des pattes. Faut pas chercher, en effet, il y a plus de pattes que ça.
Non,
C'est
je vois pas le
exact.
lapin.
Tu vois pas le lapin?
Ouais, je suis que sur le
Regarde
canard
sur.
là, depuis tout à l'heure.
Et voilà, c'est ça qui est assez excellent, c'est qu'en fonction de comment tu regardes l'image et en fonction donc de justement ce qu'on appelle donc du coup les biais cognitifs, c'est qu'en fonction de chacun, on a une capacité à voir et à définir une image par rapport à notre vécu, notre expérience. Et voilà, donc c'est pour ça que ce qui est assez rigolo, c'est des tests
Ah.
qui sont relativement connus. Et c'est pour ça que je te dis, si tu as fait abstraction, que tu limites, que tu
Ah
mets
bah c'est
une main
bon.
sur les oreilles, tu vas voir que tu vas avoir
Bon, c'est bon.
un.
Ouais, j'ai réussi à le choper là, c'est bon.
Et bien vu l'outre, oui, c'est ça, un éléphant, ça trompe énormément. Alors il y en a plein des tests comme ça. Rally, tu vois pas le lapin, tu vas voir. Au bout d'un moment, tu vas le regarder. Concentre-toi sur l'œil et sur la bouche, sur le côté droit. Tu vas voir que tu vas le voir. Bref, vous embêtez pas, on va avancer parce que ça c'était juste l'idée, c'était de vraiment de vous montrer avec deux pauvres dessins comment en fait on peut en gros vous travailler la tête et en gros voir en fait de travailler comment dirais-je, votre visualisation et donc travailler la façon dont vous voyez les choses de façon générale. Du coup, ça, c'était pour vous montrer vraiment un exemple concret. Maintenant, je vais vous montrer, on va passer juste sur l'aspect maintenant vraiment informatique de la chose, sur, hop, je passe dessus, hop, sur en fait, ok, on a vu que notre cerveau, il peut se faire avoir, l'exemple était parlant, mais quand on va sur Internet, ou que ce soit d'ailleurs n'importe où dans la vie, hein, c'est quand on est avec un état émotionnel qui est, on va dire, on se retrouve pour X raisons fatigué, qu'on a des coups de stress très forts, ou qu'on est, on va dire, avec ce que j'ai marqué, trop de curiosité sans une réelle réflexion. C'est ce qu'on appelle le combo perdant. C'est celui où on va faire les mauvaises choses avec les mauvais clics au mauvais moment. Et c'est pour ça que c'est super important, comme on prendrait la voiture, comme on prendrait n'importe quoi, un avion ou que sais-je, d'être dans un bon, entre guillemets, dans un bon état mental, on va dire, pour être vraiment avec toutes ses capacités. Et j'ai mis ce qu'on appelle, alors ça, je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent ce terme de dark pattern. C'est quoi un dark pattern? C'est ça en fait. Ça par contre, c'est une image que je pense que vous connaissez tous. C'est quand vous allez télécharger, alors j'ai pris vraiment des choses les plus connues, quand souvent vous allez télécharger un soft sur Internet. Par exemple, en l'occurrence, on va chercher CC Cleaner, qui est toujours très très demandé. Très souvent, si vous ne faites pas gaffe, vous allez tomber sur un site qui s'appelle Softonic, qui est ultra connu pour apparemment récupérer nombre de fichiers. Et c'est le dark pattern, c'est quoi en fait? Le but, c'est d'un site comme ça, c'est de ce que j'ai mis là, c'est de collecter des données, de faire potentiellement vous forcer à acheter, augmenter du trafic, améliorer des taux de clic, ou dans le cas, là c'est pas celui-là, mais dans le cas par exemple d'une assurance, c'est potentiellement vous forcer à prendre des souscriptions avec la petite case qui est déjà cochée. Et par quel moyen? Eh bien, par voilà des. Là, on le voit bien. Là, le but, c'est de vouloir télécharger. Donc, on a des boutons de téléchargement de partout. Donc, globalement, quand on va faire ça, on a une chance sur 3 de se planter et de cliquer sur le mauvais bouton. Et forcément, donc, derrière, de se ramener soit des copains, c'est-à-dire de la collecte de données qui se fait à votre insu, soit potentiellement télécharger une pièce qui est malheureusement comme de type troyen et qui va contenir par exemple un CC cleaner qui en effet est fonctionnel, mais qui a ramené les copains et qui va vous contaminer. Qu'est-ce qui se passe juste après si vous avez mal cliqué, enfin en gros que malheureusement vous avez cliqué au mauvais endroit et que, par exemple, vous avez téléchargé la pièce jointe, et enfin pas la pièce jointe, que vous avez téléchargé l'exe et que vous le lancez, bam, vous pouvez, c'est un exemple, j'ai pris quelque chose qui est ultra connu, soit vous, des fois vous pouvez vous récupérer la fenêtre qui est une fausse fenêtre de pop-up, qui est balancée par le site et qui vous dit qu'en gros vous êtes en train de vous faire encrypter, donc avec un décompte avec le timer pour agir justement sur vos biais cognitifs, pour agir urgemment, avec bien sûr check payment pour aller payer immédiatement la rançon. Bon, bien sûr, on se doute que tout ça, c'est de suite la première des choses à faire quand on n'est pas technique, c'est immédiatement un arrêt des connexions, première chose à faire, vous avez le doute, vous déconnectez le PC du réseau, vous le laissez allumer, déconnecter juste le câble réseau ou le Wi-Fi, et si jamais encore le doute, c'est le mieux, c'est de débrancher la box. Au moins, vous êtes comme ça, en stand-by, le temps de comprendre ce qui se passe, et c'est pour ça qu'après, vous allez demander de l'aide à l'entourage. Soit vous êtes technique, vous allez vous poser les questions, soit vous ne l'êtes pas, et là, il faut faire appel aux copains, aux proches qui sont dans le domaine. Voilà. C'est pour ça, là, avec ce début de présentation rapide, je voulais juste vous montrer comment, avec juste quelques biais cognitifs, quelques clics à droite à gauche mal placés, on peut très vite se retrouver dans une situation où on est de suite en position de faiblesse. Alors, on va passer de suite sur le se connaître, définir ses besoins. Ça, on a vu donc l'étape, l'exemple typique. Maintenant, on part sur le vif du sujet. Là, on n'est pas parti avec un ordinateur. On s'est posé des questions avant de commencer à travailler le clavier. Il y a se connaître. Et pour ça, je l'ai séparé en trois, on va dire, en trois sous-menus. Il faut d'abord juger son niveau de risque. Tenir du contexte géopolitique, parce que c'est une question nous, on se pose peut-être moins en France, mais qui va se poser différemment si on est en Chine ou ailleurs. Et bien entendu, connaître son niveau. Alors, pour juger son niveau de risque, j'ai fait un petit... ne prenez pas peur quand vous voyez ces magnifiques graphiques que j'ai fait à la main. Certes, ça fait ancien, mais l'idée est là. L'échelle des risques, en fait, c'est situer quel type de personne on est et dans quel contexte on évolue. Pour la plupart des gens, on est madame, monsieur, tout le monde. Mais on peut très vite être madame, monsieur, tout le monde, c'est un exposé. C'est-à-dire, ça c'est un cas typique, malheureusement, des élèves qui peuvent être dans les collèges, les lycées, qui ont, pour X raisons, posté des réseaux sur les réseaux sociaux et qui commencent à être exposés par rapport à leurs camarades. Ça coûte quelques belles problématiques aux parents et en premier aux élèves. Après, on peut être bien sûr un responsable de divers, que ce soit une entreprise ou d'association. Et dans ce cas-là, on a notre prise de parole, tout ce qu'on va faire, on va dire, sur Internet a forcément des actions, des actions et des retours. Sans parler, bien sûr, si on est une personnalité publique. Et après, il y a le cas un peu spécifique après de quand on est journaliste. Quand on est journaliste d'investigation ou personnage de premier plan, là, on peut parler des des personnes de type politique. Et le cas le plus extrême, c'est les agents de terrain qui bossent pour la DGSE ou autre, les opposants politiques ou les lanceurs d'alerte. Et dans celui-là, dans ce cas-là, on peut sortir un peu Edward Snowden, qui est un des plus connus, sans parler de Julian Assange, etc., qui, eux, sont toujours les personnes vraiment qui ont l'exposition la plus forte. Et les risques, forcément, ils sont pas petits, hein, parce que ça peut aller de simples, on va dire, invectives, à des attaques verbales, physiques, juridiques, politiques, et sans parler de potentielles peines de mort, etc., qui sont vraiment le cas absolu. Qui attaque, enfin en gros, dans cet exemple-là, dans l'échelle des risques, qui, on va dire, est une menace? Alors ça peut être pour Monsieur Tout-le-Monde, un cas classique, quelqu'un qui va enquêter, type une RH qui va venir se renseigner sur vos profils Facebook, etc., parce que vous êtes en train de passer un entretien et qui va creuser de l'information. Ça peut être plus embêtant, ça peut être une assurance qui va creuser, savoir un peu dans quel état de santé vous êtes pour potentiellement vous faire un peu monter les tarifications. Ça peut être des curieux malsains et des gens qui sont, on va dire, dans le cas de l'attaque de Monsieur Tout-le-Monde, qui s'attaquent à vous de façon bête et méchante pour nuire à votre image. Ça peut être les hackers purs et durs qui nuisent pour votre, on va dire, pour récupérer des sous. Donc ça, c'est fait partie, forcément, on l'a compris, des plus grosses attaques. Des groupes d'intérêts divers et variés qui peuvent, en fonction de ce que vous reflétez, vous attaquer et en gros faire en sorte de chercher des noises. Et bien sûr, le cas le plus extrême, notamment pour les agents de terrain, bref, les lanceurs d'alerte, les États qui censurent. Et c'est pour ça que je passe de suite à l'image suivante. Paf ! Qui vient en fait qui est une image qui vient de Reporters sans frontières et qui trace un état du monde. Alors je crois que elle date un petit peu, je crois que date de 2017-2018, mais vous vous doutez que la situation n'a pas beaucoup beaucoup changé et qu'on voit que malheureusement l'état du monde, en fonction de là où on est, c'est pas terrible quoi. Il y a quand même beaucoup, on l'a bien compris sur l'échelle, là où c'est noir, c'est vraiment le plus catastrophique. La liberté de la presse est complètement muselée, le droit d'expression complètement muselé. Bref, quand on regarde la tête de la carte, il n'y a pas forcément beaucoup de pays, à part les pays du Nord, où directement on a une capacité à pouvoir un peu s'exprimer librement et pouvoir vivre, entre guillemets, sereinement. Donc, vous vous doutez bien que quelqu'un qui vit en France, qui va se connecter sur Internet, ne va pas avoir les mêmes besoins que quelqu'un qui vit en Chine, ou quelqu'un qui vit en Arabie Saoudite, ou quelqu'un qui vit au Soudan. Du coup, c'est pour ça que juste après, diapositive d'après, il faut, quelque part, on l'a vu un peu, définir et connaître son niveau. Donc j'ai pris un exemple le plus commun avec la randonnée. Quand vous vous baladez dans la rue, vous avez juste besoin de tongs. Jusqu'au plus haut niveau, quand vous faites de l'alpinisme, vous avez forcément besoin d'avoir un équipement qui est conséquent, avec l'équipement de sécurité en particulier. Quand vous êtes avec l'informatique, parce que ça j'en parle souvent, parce que quand on dit de se protéger, d'avoir un équipement un peu spécifique, que ce soit matériel ou logiciel, les gens, ça parle pas forcément, et pourtant c'est quand même la même chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va faire juste du mail, etc., on va dire monsieur, on va dire papy, enfin souvent, et c'est pas, j'allais dire papy, mamie, on va leur donner en général la tablette ou le smartphone, parce que de toute façon, il n'y a que ça qui les intéresse pour pouvoir avoir l'aspect réseau social et pouvoir communiquer, jusqu'au cas où on a, par exemple, vraiment besoin de quelqu'un qui, donc c'est par exemple quelqu'un qui travaille dans la cyber, qui a vraiment besoin de tout gérer lui-même, qui va avoir son propre routeur géré par lui-même, sa propre boîte Wi-Fi, son propre firewall qui est matériel, qui est géré par lui-même, et on va dire un matériel qui va en conséquence. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est super important. On n'a pas encore touché informatique, c'est préparer quelque part son équipement comme on partirait faire de la randonnée. Voilà. Ce qui m'amène à passer directement sur les vérifications et les vérifications de base et le matériel. on va regarder, il y a un point qui est crucial à prendre en compte, c'est les lieux de connexion. Vous allez voir après, le cadre de la maison et les bases d'une bonne protection. Donc, les lieux de connexion sont super importants pour Internet, oui. Là, c'est pareil, j'ai schématisé, hein, c'est pas super joli, mais l'idée est là. On a le cas le plus, on va dire, le cas le moins sécure et le moins sécure tout court, c'est par exemple le lieu public ouvert, une gare. À chaque fois, j'ai séparé, juste pour expliquer les graphes, j'ai séparé le cas, on va dire, où on travaillerait sur un matériel de prêt, qui est vraiment pour le coup le cas le plus zéro au niveau sécurité, ou si on travaille avec un matériel perso. Ensuite, on connaît son matériel, ça vient ramener quand même une petite couche de sécurité. À chaque fois, j'ai mis des 0 ou des 1, c'est juste pour donner en fait une note, un indice de confiance. Voilà. C'est complètement subjectif, mais c'était pour un peu donner l'idée, la tendance. Donc, au niveau des lieux, donc on a vraiment les lieux publics principaux. J'ai différencié vraiment le côté la gare, qui est vraiment le gros lieu où il y a vraiment ça brasse du monde. Quelque part, l'accès est ouvert en permanence. D'un lieu qui est public comme les hôtels, où vous pouvez avoir de l'accès Wi-Fi, mais en général, c'est quand même géré à la hauteur de l'hôtel, et ça reste quand même s'il y a du monde, ça reste assez limité. Mais quoi qu'il arrive, ça reste des endroits qui sont craignos pour se connecter. C'est pour ça que là, j'ai mis ce petit lien VPN, qui est en gros la bretelle de sécurité de survie, qui va vous permettre, en fait, de même si vous êtes dans une connexion où derrière, vous maîtrisez strictement rien, donc ça peut être, vous ne savez pas qu'est-ce que fait, on va dire, celui qui gère ce Wi-Fi, en gros, avec le routeur derrière. Si vous voulez être minimum secure, le VPN, là, il est vraiment absolument indispensable. C'est lui qui va vous permettre de faire un lien sur Internet de façon complètement secure pour pouvoir vous connecter à vos sites, etc. Le travail, il est absolument nécessaire. Après, on a le lieu du travail. C'est un lieu un peu spécifique parce que le lieu du travail, en général, il est censé être sécurisé. Et en général, on ne devrait pas avoir normalement de matériel de prêt. On ne devrait avoir que du matériel, soit de perso ou de l'entreprise. C'est un cas un peu à part, celui-là, on va pas épiloguer dessus. Après, il y a le classique en fait, de la maison et de chez les amis, qui seraient censés être des lieux, on va dire, quand même un peu plus sécurisés, des lieux qu'on connaît. Mais c'est pareil, ça peut être les amis, on ne sait pas qu'est-ce qui traîne sur le réseau. Et donc, quand on se connecte, c'est quand même bien de toujours mettre la petite couche de protection avec le VPN quand on est connecté chez les copains. Et puis, il y a le cas de la maison où, en général, c'est toujours pareil. Là, on est vraiment chez soi. Le matériel, le routeur, et ça est connu. On sait normalement, globalement, ce qui transite dessus. On est capable de le maîtriser. Donc, normalement, même si on était sans le VPN, globalement, c'est quand même... on doit maîtriser sa connexion. Toujours le cas du matériel de prêt. Celui-là, il faut le mettre de côté. Je tenais à le mettre pour le visuel, pour que ce soit que ça parle, parce qu'il faut en tenir compte. Et après, il y a le cas des smartphones. Le cas des smartphones qui fait que quand on se connecte avec un smartphone sur Internet, on est en connexion quelque part directe. Quand on est ici, dans ce cas-là, on est en connexion directe sur Internet. Donc là, le côté sécurité, je vous dirais, ça sera un autre sujet à limite à livre blanc, mais le côté sécurité d'un smartphone, pour moi, même si j'ai mis 0 sur le matériel de prêt et que j'ai mis 1 pour le matériel perso, pour moi, il s'approche proche du 0, quoi. Après, on peut utiliser les smartphones comme une borne Wi-Fi pour faire du partage de connexion. Alors pareil, un smartphone de prêt, c'est vraiment le cas d'un ami, vous êtes complètement planté, vous avez besoin de partager la connexion. C'est pas génial, mais bon, ça rend service. Mais pareil, vous allez utiliser un VPN. Et pareil, même sur le cas du perso, là je l'ai pas mis, mais bon, c'est juste pour différencier un petit peu les niveaux. Et dans tous les cas, dans tout cela, quoi qu'il arrive, hormis la maison et à la rigueur celui-là, ça veut dire que tout ce que vous allez véhiculer comme info, comme connexion, etc., là, c'est mode n'importe quel site, que vous connectez à la banque, se connecter aux réseaux sociaux, se connecter à n'importe quoi, faire gaffe, quoi qu'il arrive. limiter drastiquement les informations parce que vous n'êtes pas capable de voir et vous n'avez pas une capacité à pouvoir agir là-dessus. Donc, comme on n'a pas cette capacité-là, il faut drastiquement limiter. Voilà. Donc, les lieux de connexion, super important. On va passer à la diapo suivante, le cas du lieu personnel. Alors, le cas du lieu personnel, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Il y a comme tout à l'heure, il y a le matériel maîtrisé et le matériel non maîtrisé. À la maison, en général, globalement, on est tranquille, on connaît son matériel. Bon, on est dans le petit cocon, on fait confiance. Maintenant, toujours pareil. Est-ce qu'on a de la famille? Est-ce qu'on a des enfants qui vont venir faire joujou sur le PC, qui vont se connecter? À faire attention, mais ça reste dans la partie éducation, ça reste dans la partie normalement qu'on peut maîtriser. J'ai juste mis un truc qui est super important, les clés USB. On évite au maximum les clés USB, c'est du moins celles qu'on ne connaît pas, parce que s'il y a bien un truc qui infecte aujourd'hui et qui est une des plaies en informatique, c'est ça. Le simple fait aujourd'hui de choper une clé USB qui serait tombé sur le sol, qu'on aurait récupéré, j'en sais rien, dans la rue, chez le voisin. Vous évitez. Connexion, vous savez, vous n'en savez strictement rien. Le simple fait d'avoir connecté, même si c'est 10 secondes, c'est fini. Vous pouvez être, en fonction de ce qui traîne sur la clé dessus, vous êtes complètement infecté et vous avez là-dessus, suivant comment c'est infecté et le niveau de sophistication de ce qui est dessus, ça dialogue directement avec la machine. D'un point de vue système. Donc même les antivirus, tout ce que vous voulez, firewall, ça passe à l'as. La clé, c'est vraiment, clé USB, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment problématique. Ciprali, il n'y a plus de plus maintenant, c'est toujours problématique avec absolument tout le monde, si jamais c'était pour ça. Et après, il y a tout le matériel, qui est non maîtrisé. Mais non maîtrisé, ça veut dire en fait, je l'ai mis en dessous, c'est parce qu'ils sont difficiles à mettre à jour, souvent très peu sécurisés et trop bavards, c'est notamment pour lui, pour les assistants vocaux, qui eux, bon, c'est connu, hein, on va passer tous les foins qui sont passés sur les Amazon qui vous écoutent, etc., etc. Il y a plein d'articles sur le sujet. Ça, c'est une boîte, c'est très gadget, ça ramène des trucs qui sont sympas, mais bref, grosse attention là-dessus. Et après, sans parler, les téléconnectés qui commencent de plus en plus à dialoguer sur Internet. Les caméras IP, petite anecdote, mais qui avait fait aussi un sacré foin à l'époque, c'est qu'il y a eu une grosse attaque, parce que ça c'est très très mal sécurisé souvent, enfin, ça fait partie des appareils qui sont les plus mal sécurisés, avec l'IoT aussi. Grosse attaque de OVH qui se sont fait ce qu'on appelle DDoS, donc attaquer en masse leur serveur il y a, je crois, je ne sais plus quand est-ce que c'était le début d'année, enfin, il y en a régulièrement. Et qu'est-ce que c'était qui attaquait? C'était ce qu'on appelle un botnet, des hackers qui avaient pourri tout un tas de caméras IP, donc qui étaient mal sécurisées, avec en plus des accès directs sur le web. Et ils avaient, je vous dis un exemple, comme ça, ils avaient peut-être, je ne sais pas, 5 000, 200 000 caméras IP qu'ils maîtrisaient, qu'ils avaient hacké et qu'ils avaient, transformé en tant que attaqueur, enfin en tant que moyen d'attaquer des sites internet et notamment OVH. Et c'est là où OVH s'est pris une grosse attaque, je ne sais plus de combien de terras, c'était énorme et c'était ça qui avait pourri. Donc c'est pour ça, tout ça peut sembler anodin, mais caméra IP mal sécurisée avec accès sur le web direct, attention. Les imprimantes réseau, pareil. Gros point aussi sur la domotique. Domotique est un cas un peu particulier. La domotique, c'est classique avec dans le sens pour pouvoir piloter ses stores, pour pouvoir allumer son chauffage à distance, etc. Ça, c'est très très bien. Mais alors, c'est pareil, c'est super, vraiment, vraiment mal sécurisé. Et je vous donnais un exemple tout bête. Souvent, on va avoir par exemple les ampoules connectées ou des thermomètres, etc. Mais en particulier, on va faire simple avec les ampoules connectées. C'est tellement mal sécurisé et en plus, ça utilise des protocoles à part qui ne sont pas en fait liés directement à Internet. Mais par exemple, si vous êtes dans le périmètre d'un voisin qui a ça à la maison, avec de petits outils, mais qui sont ultra simples, on peut s'amuser à. Mais vraiment, ça ne demande même pas de piratage ou de hackage compliqué. C'est juste que vous pouvez vous amuser à allumer la lumière de votre voisin avec juste deux, trois clics de souris. Et plus rigolo de lui allumer ou de lui éteindre son chauffage. Donc ça, c'est des éléments qui vont, j'espère, se sécuriser de plus en plus, mais on n'y est pas encore. Et la domotique, il y a du travail à faire. Donc vraiment, ça, avec en plus une exposition sur Internet, aïe, 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 faire attention. Et après, il y a le cas de ça aussi, ça fait des foins. C'était, j'ai mis, j'oublie toujours ce nom, je crois que c'est le Turbomix ou Thermomix, hein, robot ménager, avec un petit affichage digital qui vous prépare en fait vos popotes et surtout qui vous propose de vous connecter à Internet, sûrement pour faire de la récupération de recettes. Mais ça dialoguait un peu trop aussi chez les clients, pardon, chez les clients, chez le fournisseur à émettre des données. Que dire, je ne sais pas, j'ai pas été creusé, mais ça dialoguait un petit peu trop, ça fait un foin, ça pareil, vous tapez sur Internet, vous allez trouver les infos là-dessus. Bref, tout ça, cet environnement non maîtrisé, bah, il faut faire gaffe parce que à la maison, on n'a pas encore, on ne s'est pas encore connecté à Internet, bah, ça peut dialoguer pour vous. Donc voilà, petit point, mais super important. Et du coup, on passe sur les bases d'une bonne protection. Les bases d'une bonne protection, il y a de suite ce qu'il faut regarder, bah, c'est la porte d'entrée, c'est-à-dire en général votre routeur, votre box. Alors là, j'ai marqué le FAI inconnu, c'est le cas de la gare, hein, c'est-à-dire là, on ne connaît pas, on connaît rien du tout, donc ça, c'est vraiment, c'est pas à proscrire, mais vraiment, on évite de se connecter là-dessus. Ça, c'est le cas le plus commun, c'est-à-dire du coup les FAI connus, Bouygues, Free, Orange, SFR, pour ne pas les nommer, qui vous proposent soit de faire de la location de box avec les Livebox et compagnie que vous connaissez tous, ou soit, alors j'ai mis un indice de confiance aussi, c'est-à-dire donc le zéro ici absolu pour les FAI inconnus, un pour le, on va dire pour le routeur de lock parce que c'est vraiment à la charge du coup du fournisseur de vous le mettre à jour, de faire de le suivre, mais bon, ça reste quand même un bon niveau de sécurité. Après, il y a le cas où on gère et on peut se mettre son propre routeur perso qu'on va gérer. Donc normalement, ça veut dire que si on fait ça, ça veut dire qu'on a les connaissances et qu'on va le mettre à jour et que techniquement, on va optimiser, donc ça va être beaucoup plus sécure. Et j'ai mis un troisième cas qui doit être peut-être, je ne sais pas après, enfin, vous me direz, on discutera après, qui n'est pas forcément connu, ce qu'on appelle les FAI alternatifs. Et qui sont particulièrement attentifs à la vie privée. Alors, par exemple, moi j'ai le cas d'un qui s'appelle Tetra Neutral, qui travaille dans la partie Haute-Garonne et qui va vous proposer en fait un service où ils sont en fait très attentifs à la vie privée, c'est-à-dire que eux, quoi qu'il arrive, quand vous connectez sur Internet, ils font en sorte de vraiment limiter absolument en gros les besoins de récupération d'infos au strict minimum pour prendre les logs. C'est vraiment limite. Alors que, bah, que ce sont nos chers amis Bouygues, etc., bah, ils vont quand même pouvoir faire de la stat malgré tout sur vos connexions. Et puis, ils sont liés avec des boîtes noires potentielles liées au gouvernement, bref, pour faire du suivi. Bon, ça, c'est un autre débat, autre sujet de livre blanc. Bref, voilà, le premier point, donc, c'est forcément d'avoir une vigilance sur la porte d'entrée. À chaque fois, j'ai mis, il y a le petit symbole du firewall, parce que c'est premier, on va dire, le premier maillon entrant, c'est votre routeur. Donc, c'est lui qui fait effet de masquer, finalement, ce qu'il y a derrière votre réseau. Donc, voilà. Il y a deux points clés qui sont à suivre sur les box, que sont les serveurs DNS. C'est important. C'est très important de pouvoir régler ses propres serveurs DNS. Rappel, le serveur DNS, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros, si on devait expliquer ça simplement, c'est comme le bon vieux bottin de l'époque qu'on devait appeler. Vous ne reteniez pas les numéros de téléphone de tout le monde, donc vous vous basiez sur un bottin qui vous permettait de chercher le nom de la personne avec quelques informations et vous retrouviez le numéro. Ben, les DNS, c'est ça, c'est le même principe sur Internet. Qui vont vous permettre en fait de relier un site web, l'afterthinking, à une adresse IP. Je dis au hasard 592, enfin pardon, 70, etc. Enfin bref, une adresse IP. Le problème, c'est que vous pouvez avoir ce qu'on appelle des DNS qui sont menteurs, c'est-à-dire qui c'est voulu pour X raisons, par exemple, qui sont voulus pour, par exemple, vous évitiez, par exemple, d'aller chercher de l'information, notamment pour aller télécharger les films, etc. Notamment avoir des accès sur du lien torrent, etc. Ça, de plus en plus, vous avez de moins en moins d'informations. Et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir les régler soi-même. Alors c'est une opération qui est assez facile. C'est pour ça que j'ai marqué à discuter avec la communauté, parce que pareil, il y a tout un débat sur les bonnes adresses à choisir. Donc ça, on en discutera après. Et notamment, après, un truc qui est super important à discuter avec la communauté, ça correspond. Par défaut, quand un dialogue sur Internet, c'est un dialogue ouvert, c'est-à-dire que c'est captable. Et là, ce qui est intéressant, c'est de passer sur ce qu'on appelle de la sécurisation over des TLS, c'est-à-dire c'est pour chiffrer vraiment de la même façon que vous chiffrez avec du HTTPS, et bien c'est de chiffrer aussi la gestion des DNS avec du chiffrage. Bref, voilà, DNS, super important. Et alors après, bien sûr, le Wi-Fi de tous les routeurs classiques. Alors par défaut, en général, ils sont globalement tous quand même bien sécurisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y en a plus qui vous proposent, ou rarement qui vont vous proposer du protocole autre que le WPA2 PSK, du style WAP, etc. Ça, vous oubliez, c'est vraiment le minimum. C'est-à-dire que c'est vraiment le protocole de base sécurisé. Le mieux, c'est aussi de limiter, alors ça en fonction des modèles, de limiter l'utilisation ou la portée, parce que si vous pouvez rayonner que chez vous, ben c'est pas trop mal, comme ça vous évitez de rayonner chez le voisin et d'alimenter tous les copains, ou du moins tous ceux qui veulent un peu s'amuser à un peu vous pirater. Et comme je disais, voir si on ne l'utilise pas, c'est encore mieux, préférer d'utiliser le bon vieux câble RJ45, au moins vous serez sûr qu'avec celui-là, il n'y a pas de piratage direct de par les voisins. Et si, une fois qu'on a mis le Wi-Fi, c'est de proposer ce qu'on appelle, il y a une option qui est de toute façon normalement sur tous les bons routeurs, c'est du filtrage d'adresse MAC. Donc, c'est-à-dire, en gros, chaque ordinateur, chaque téléphone, chaque imprimante a ce qu'on appelle une adresse MAC. C'est une adresse unique qui définit l'appareil et qui va lui permettre de dialoguer et d'amorcer le dialogue sur le réseau. Donc, c'est une adresse qui est unique. Du coup, vous pouvez, et même fortement conseillé, de limiter les appareils de chez vous. Donc tous, vous verrez, ils ont une adresse MAC. Vous dites dans une liste, j'autorise tel appareil à pouvoir dialoguer. Voilà. Et dernière chose super importante à savoir, même si ça fait tiquer les oreilles de certains, on ne partage pas et on ne donne pas sa clé Wi-Fi à même un voisin ou quelqu'un qui pas en tout cas de notre famille, entourage proche. Parce que c'est vous qu'on viendra voir s'il y a un problème. Si le voisin s'amuse, vous lui avez prêté la clé et qu'il s'amuse à faire du téléchargement à la gogo et qu'en gros il a téléchargé je ne sais combien de films, bah, vous allez avoir l'Adopi qui va venir vous voir, qui va vous donner vous et qui vous allez devoir rendre des comptes. Et c'est pour ça que j'ai mis, c'est l'article, avec l'article qui va bien, 335.7.1 du Code de la propriété intellectuelle, qui va venir toquer à la porte de chez vous pour vous demander quelques explications. Voilà, donc ça, la porte d'entrée, premier point à regarder, ça, si vous n'êtes pas technique, vous laissez par défaut, vous vous assurez d'avoir au moins voilà, une clé de suffisamment longue, et après vous posez la question au côté technique, ou vous posez la question sur le Discord pour éventuellement vous aider. On passe derrière la porte d'entrée, on vient sur le PC. Le PC, il a besoin de ces éléments absolument nécessaires pour pouvoir... survivre, il a besoin d'un firewall actif. Le firewall, l'utilité, juste pour pareil, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, l'idée c'est juste, on a une maison. Le firewall, son rôle, c'est de checker absolument tout ce qui est point d'entrée, les portes, les fenêtres, la cheminée, et le petit coin là que j'ai fait exprès de faire juste un petit trou de souris, tout ce qui a une connexion vers l'extérieur. Son rôle, il vérifie absolument tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Et on bloque en fonction, c'est hautement paramétrable, on va pouvoir bloquer. Bref, on ne rentre pas dans les détails, c'est juste comprendre que ça, son rôle, c'est lui, il vient bloquer. Autre point, on a les mises à jour qui sont absolument indispensables. Mise à jour de l'OS, mise à jour des applications. À quoi ça sert ? Ben, j'ai fait exprès de prendre la maison à côté et la maison à droite. Vous voyez que si dans une mise à jour, on se rend compte que dans la version suivante, ces fenêtres ne servaient strictement à rien, n'ont aucune utilité, et notamment ce petit trou de souris, dans la mise à jour suivante, la maison a été retravaillée, le mur est complètement comblé, ces trous-là ne sont plus du tout à regarder. Ensuite, absolument indispensable, parce que souvent on me pose la question, est-ce qu'un antivirus est nécessaire? Oui, un antivirus est absolument nécessaire, et un antivirus à jour. Un antivirus, c'est pour ça que j'ai mis en fait la vision du plan de la maison, c'est qu'on regarde, là on est vraiment à l'intérieur, tout fichier, tout mouvement dans le PC est analysé directement, et surveillé pour vous alerter, parce que rien, comment dirais-je, vous téléchargez n'importe quoi, ou je sais pas, même vous recevez une pièce jointe de n'importe quoi, vous, en tant qu'humain, vous n'avez aucun moyen de pouvoir analyser, enfin en gros, vous-même, de pouvoir checker, si valider si la pièce est valide. Donc il vous faut quelque chose comme un antivirus qui va faire ce boulot-là. Après, évidemment, des passwords absolument nécessaires, des passwords spécifiques pour chaque, on va dire, surtout, bien entendu, pour entrer dans votre système, et pour chaque, on va dire, site web que vous allez visiter. J'insiste, c'est super important. Et une bonne gestion des droits d'accès. Parce que c'est toujours pareil, c'est pas le tout d'avoir des bons mots de passe. Si vous donnez les clés à tout le monde, automatiquement, ça sert à rien, ça va passer de partout dans la maison. C'est pour ça que j'ai essayé dans le petit schéma de montrer que voilà, de montrer les petites clés qui définissent les zones autorisées. Et un truc qui est pareil, super important, le contrôle d'origine de chaque binaire, chaque fichier que on va dire, enfin, mais surtout les binaires qui rentrent dans votre machine. Dans les binaires, c'est les exécutables de, par exemple, regardez tout à l'heure, de CC Cleaner, le classique. Bah, vous allez le prendre sur le site de l'éditeur directement, parce que les sites avec, on va dire, comme on a vu tout à l'heure, qui en a pléthore sur Internet, malheureusement, ils vous ramènent en effet l'outil, mais ils vous ramènent les copains derrière qui viennent pourrir tout votre système. Voilà, donc ça, c'est super important. Et bien entendu, le jeu de sauvegarde, alors ça, c'est absolument, mais alors, nécessaire de chez nécessaire. Ça, il faut considérer que, et moi le premier, demain, vous pouvez très bien vous faire pourrir d'une façon ou d'une autre, et ça arrive. Donc, vous avez absolument besoin de vous appuyer sur un jeu, enfin, quand je dis un jeu, c'est des sauvegardes, donc des moyens de sauvegarde, des clés USB, des disques durs, ce que vous voulez, mais d'avoir un minima, trois jeux de sauvegarde différents pour vous dire, bah tiens, j'ai été mettre ma clé USB sur mon PC qui était infectée, oh tiens, je me suis refait crypter mon jeu de sauvegarde, bon, bah, il va falloir faire une sorte de prendre le deuxième, mais dans ce cas-là, on n'utilisera pas le même PC. Voilà, donc ça, absolument nécessaire, cibler le niveau de ces données. La protection de votre PC. Ensuite, justement, je passe sur le ciblage, cibler le niveau de ces données. Ça, c'est pareil, c'est super important de s'être posé la question à l'avance. Qu'est-ce que vous avez comme données? Qu'est-ce que vous allez véhiculer? Qu'est-ce que vous avez comme données sur le PC? Qu'est-ce que vous allez véhiculer comme données sur Internet? Et bref, qu'est-ce que vous stockez et où? Donc, j'ai essayé, de faire un peu une petite analyse rapide. Il y a les données communes. C'est le truc qui craint le moins. C'est-à-dire, c'est tout ce que vous allez récupérer sur Internet. Le CC Cleaner, à la rigueur, vous le perdez, on s'en fiche royalement. Vous allez le retrouver après en le rechargeant. Des PDF de doc, même si c'est un peu compliqué des fois, c'est pas grave, vous pouvez le recharger. Par contre, tout ce qui est ici, les données personnelles, travail public, etc. Tout ça, c'est de la donnée perso. Donc celle-là, si vous la paumez ou que vous faites pourrir, c'est bien plus compliqué là de la retrouver. Les données donc personnelles, il faudra voir à peu près qu'est-ce que vous estimez pouvoir perdre. Qu'est-ce qui est dans la donnée personnelle qui est absolument, sensible ou pas sensible. À savoir si des photos c'est sensible ou pas sensible, des documents perso divers et variés, savoir si c'est sensible ou pas sensible. Le cas du travail, c'est un peu à part, parce qu'en général, normalement vous avez des documents qui doivent être sauvegardés à votre boulot, mais bon, en général, il faut faire gaffe avec. Les données que vous allez mettre, bien sûr, sur le côté, ça c'est le cas à part, les données publiques, c'est-à-dire celles que vous acceptez de mettre sur les Facebook et compagnie, et que vous acceptez quelque part de mettre en public, tout simplement, et ce que vous souhaitez vraiment, pour le coup, vraiment, entre guillemets, caché. vos documentations de santé, vos documentations bancaires, les photos sensibles. Ça, c'est absolument à mettre sur, on va dire, du matériel à côté. Et surtout, il y a une notion après, derrière, je ne vais pas parler de chiffrement pour les protéger. À la limite, ça sera presque aussi un autre sujet de livre blanc. Et après, il y a ce sujet qui est super important aussi, la biométrie. La biométrie, c'est quoi? C'est tout ce que vous avez en utilisant vos smartphones et compagnie qui vont vous faire de la récupération de vos empreintes digitales pour vous loguer. La reconnaissance faciale, la rétine, je ne sais pas trop si c'est utilisé. Enfin, là, c'est moi qui le vois souvent dans les films. Enfin, bref, tout ce qui caractérise votre être et qui n'est absolument pas, malheureusement, vos empreintes digitales, bah, à part vous râper les doigts, vous n'avez pas d'autre moyen de les changer. Donc ça, pour moi, là, je rentre dans un côté qui est partisan, ça ne tient qu'à moi, ça, c'est je ne l'utilise absolument pas et je fais en sorte, dans mon utilisation, en tout cas personnelle, de n'en mettre nulle part, enfin vraiment, le moins possible quand on me l'oblige pas. C'est pour ça que là, votre vie privée, j'en reviens là-dessus, elle doit être absolument protégée. J'ai cité, ça pour vous protéger, c'est l'article 9 du Code civil. Il date de 1970. Il s'adapte bien entendu au fur et à mesure avec l'évolution d'Internet pour adapter, donner des, on va dire, des articles supplémentaires des amendements supplémentaires pour on va dire, vous protéger de mieux en mieux. Donc la vie privée doit être absolument protégé. Petit clin d'œil à Zilote, futur livre blanc. savoir situer et maîtriser où se trouvent vos données. Voilà, ça, on a parlé certes là, voilà, de globalement celles que vous aviez, les différents niveaux. Savoir les situer, c'est super important. C'est pour ça qu'avant de lancer, on va dire, des infos, se poser les questions, où c'est que sont. Alors bien sûr, un classique, les serveurs de mail. Alors j'ai toujours pareil mon petit système de notation avec qui vaut ce qui vaut, pour donner des indices de confiance. La messagerie en ligne, classique, tout le monde utilise, avec un 0 et un 1, avec, pour dire ça, c'est les Gmail, les compagnies, les Yahoo et toute la clique sur laquelle on peut absolument pas faire confiance et qui, on l'a vu avec les révélations Edward Snowden et compagnie, que ça, c'est tout le temps en permanence écouté et surveillé. Je mets un 1 avec si vous avez la possibilité de pouvoir mettre vos... comment dirais-je, gérer votre propre nom de domaine, ça devient de plus en plus facile d'avoir votre propre, on va dire, serveur de messagerie, mais sans que ce soit vous qui le gériez, juste les boîtes aux lettres vraiment à votre nom, comme ça vous avez vraiment la main de A à Z, c'est important. Donc de ce véhicule tout un tas d'informations. Les réseaux sociaux, moi je mets niveau 0 parce que voilà, tout ce que vous mettez dessus, même si derrière il faut sécuriser, c'est quand même pas GG. Donc ça, super gaffe, à vous de gérer vraiment, on en parlera, je l'ai mis sur la fin quelques infos là-dessus. Le cloud, c'est là en fait souvent les équivalents de Dropbox et WeTransfer et compagnie où vous allez mettre des données à partager avec des copains, l'entreprise, etc. Toujours pareil, zéro c'est quand c'est Dropbox classique. Donc grand public, ou un, c'est quand vous avez la possibilité de maîtriser votre propre infra sur le net, donc ça c'est forcément beaucoup mieux, ou de payer, voilà, c'est pour vous savez un petit peu que derrière il y a une notion de sécurité. Bien entendu, il y a les infos qui sont véhiculées sur les sites marchands, on va pas les nommer. Qu'est-ce qu'il y a qui transite, les infos perso. J'ai pas précisé, mais là voilà, on voit un peu les types d'informations qui sont véhiculées dessus. Donc les sites marchands, forcément, c'est pléthore, donc il faut faire super gaffe, mais on n'a pas le choix, il faut faire avec. Les sites administratifs qui sont normalement, j'ai mis un parce que voilà, que ce soit le gouvernement, etc., c'est censé être sécur, même si ça se fait techniquement hacker, c'est censé être sécurisé. Et un 0 qui peut être aussi un 1 pour les sites grand public. Voilà, c'est complètement variable, absolument tout ce qui peut exister. Mais tout ce beau monde est protégé, je l'ai mis par l'espèce de petit pointillé jaune-orangé, par le RGPD, qui est le règlement général sur la protection des données, et qui vient en sorte de pouvoir demander à tout site web des comptes, et notamment pouvoir leur demander quelles données vous avez sur moi et qu'ils ont une obligation de vous envoyer les informations sous maximum un mois. Alors ça, c'est quelque chose, il ne faut pas en abuser tous les 4 matins, mais c'est intéressant, notamment pour eux, de leur demander au niveau des réseaux sociaux, qu'est-ce que vous avez comme information sur moi. Et des fois, on en apprend des vertes et des pas mûres. donc voilà, ça c'est les infos qu'on a qui peuvent être véhiculées sur Internet. Bien sûr, les smartphones, alors, le smartphone, ça ne tient qu'à moi, toujours pareil. Moi, smartphone égale utilisation au strict minimum. Alors, c'est vraiment l'outil sur lequel je laisse absolument mes traînées, aucune information, que ce soit n'importe quoi. Données bancaires, tout ce que vous voulez, il n'y a strictement rien qui circule. C'est ce que je conseille, vraiment de l'utiliser pour de la consultation, etc., mais vraiment limite. Sujet à discuter après avec la communauté, savoir ce que vous en pensez. Et après, il y a le cas de la maison avec un indice 1 pour le PC qu'on maîtrise avec tous ses documents, avec un indice 1 de sécurité et le bon vieux disque ou on va dire le NAS, quelque chose qu'on maîtrise, qui est complètement déconnecté d'Internet et sur lequel on va venir mettre nos papiers administratifs, de la donnée bancaire, données de santé. Et sur lequel, que ce soit d'ailleurs sur lui ou même sur le reste, ça sera intéressant de les, même fortement conseiller de les chiffrer pour permettre de protéger. Chiffrer, ça veut dire que derrière, si on vient mettre par exemple un document sur le cloud, qu'on se fait hacker notre compte, n'importe qui, là, c'est open bar, il a accès à toutes les données, il récupère, il accède à tout. Alors que si vous venez déposer et que derrière, soit le service vous propose de faire du chiffrement, donc ça veut dire que, en gros, le fichier, il est présent, mais en gros, on y applique une sorte de petite couche de chiffrement qui vient faire en sorte où seulement vous qui connaissez la clé de déchiffrement, il n'y a que vous qui pouvez y accéder. Donc ça veut dire que quelqu'un qui vient le récupérer, bon, il a le fichier, mais à part vraiment s'il vous en veut vraiment et qu'il a les moyens, il y arrivera, mais enfin, ça reste quand même très compliqué. Donc, chiffrement vraiment nécessaire. Après, il faut peser le pour le contre de qu'est-ce que je chiffre, qu'est-ce que je chiffre pas, parce que ça demande quand même un peu de temps, ça demande certains outils qui sont faciles à utiliser, mais il faut faire gaffe. Et puis tout n'est pas forcément à chiffrer, pareil, sujet à discuter avec la communauté, après avec les questions. Donc ça, globalement, important de savoir où se trouvent les données et comment on les gère. On va passer sur maintenant rapidement les outils de communication que tout le monde connaît. Donc j'ai tracé vraiment les trois plus connus. Donc la messagerie classique, avec ce qu'on appelle le client lourd en connexion SSL, ça c'est pour le côté sécurité, ou le webmail. Le client lourd, c'est le bon vieux Outlook, le bon vieux Thunderbird. C'est d'ailleurs vraiment où, dans le cas de, ça c'est pour les utilisateurs Windows, Thunderbird qui marche sur tout, de tête, je crois que ça marche aussi sur Mac, Linux et compagnie. C'est vraiment l'application native, pas native, mais qu'on vient installer sur l'OS pour consulter ses messages. Ou on consulte ses messages avec le webmail, c'est-à-dire avec le navigateur. Donc, tout le monde, je pense, connaît la plupart le Gmail et compagnie. Ça, il en existe différents types. Il existe les messageries de type Gmail, etc. Donc, c'est les modes vraiment monsieur tout le monde et où on ne fait pas forcément très très gaffe à la sécurité. Et il en existe après des beaucoup plus sécurisés qui chiffrent tout de bout en bout. C'est-à-dire, dès que vous faites une communication, tout est chiffré de A à Z d'un bout à l'autre. Donc ça, c'est pareil, c'est une possibilité qui est offerte. Après, toujours pareil, à peser le pour le contre, si on utilise, si on n'utilise pas. Ça revient à ce que l'image qu'on avait vue tout à l'heure, que je vous montrais. Si vous êtes monsieur tout le monde, bon, pas besoin de plus que ça. Ça peut être intéressant, mais quand même. Mais après, si vous êtes journaliste ou autre, là, c'est absolument nécessaire, quoi. Vraiment, besoin vital de pouvoir que personne ne puisse accéder à vos mails. Et après, il y a les messageries temps réel, donc comme que sont WhatsApp, Teams, Discord, etc. Donc c'est le but vraiment de dialoguer en temps réel avec les échanges, comme on le fait là avec le Discord. Et les messageries temps réel que j'ai appelé additionnel, donc c'est pas forcément le boulot, c'est-à-dire Facebook par exemple, il vous propose un chat, mais à la base c'est plus d'échanger avec le site et de proposer de mettre d'alimenter votre mur, etc. Enfin, c'est à la base c'est une fonctionnalité, mais sans plus. Par contre, on peut le plus le comprendre par exemple sur Steam, qui est vachement utilisé, qui pour la communauté des joueurs et qui vous permet de voilà, tout simplement à la base d'accéder à votre catalogue de jeux. Mais derrière, ça vous permet en même temps d'avoir de la messagerie additionnelle pour pouvoir dialoguer avec les joueurs. Tout ça, en fait, voilà, que ce soit lui ou lui, moi, je ne suis pas très fan derrière d'utiliser ce qu'on appelle les clients lourds qu'on vient installer sur les PC. Parce que malheureusement, c'est à câble et ça permet d'avoir un lien direct à votre PC. De par forcément le dialogue avec les serveurs de Facebook, Steam, etc., WhatsApp. Donc moi j'ai une petite préférence à proposer, à dire de plutôt utiliser quand c'est possible le mode web. Mais ceci après est un autre débat. Voilà, je voulais vous présenter rapidement. Je vais vous montrer quelques types d'attaques. Alors là, on est plutôt sur les attaques classiques avec le mode mail. Donc dans les attaques, souvent on parle de spam. C'est en fait le spam, c'est un peu finalement et d'attaque par phishing. En fait, tout un peu dans le terme, je pense qu'on pourrait dire toute une sorte de spam. Mais bon, j'essayais quand même à chaque fois de un peu les séparer. Donc le spam, c'est vraiment à la base, si on devait faire une synthèse, c'est plutôt du mail publicitaire qui va être destiné pour vous faire acheter des produits via Gras et tout ça. Tout le monde a connu cette époque où c'était affreux, on en avait vraiment de partout. Les malwares, vraiment de type plutôt qui vont contenir des pièces infectieuses et vraiment, c'est une pièce jointe vraiment attachée dans le mail. Et le but, c'est de laisser la curiosité venir vous faire cliquer. Les attaques qui passent beaucoup plus, on va dire, au travers des anti-spam, les attaques par phishing, c'est-à-dire un mail plutôt classique qui n'a pas de pièce jointe, mais qui va vous renvoyer vers un lien infectieux avec demande de clic. Les mails de type arnaque qui vont vous tremper sur divers sujets. Alors ceux-là sont franchement traîtres. On peut vraiment se faire avoir facilement, notamment c'est pour ça que je donnais un exemple d'UPS. Vous êtes en période de commande de Noël, vous faites des demandes bref, vous commandez sur Internet vos sites préférés, et vous allez forcément avoir des avertissements de livraison. Et souvent, voilà, il suffit que vous ayez, ça passe par UPS et que derrière, vous ayez ce type de mail qui arrive, vous allez avoir tendance à vouloir cliquer. Et ceux-là sont assez traîtres. On peut vraiment se faire avoir. Après, il y a les usurpations de noms de domaine. Alors ça, il y en a plein. C'est pour ça que j'en ai mis un avec, par exemple, impo.gouv, l'EDF, etc. Les usurpations de marque, ça va en même temps. Les types de chantage, alors ça c'est pareil, ça peut être, c'est vrai que j'avais pas précisé, il y a les types d'attaques qui sont ciblées ou non ciblées. C'est-à-dire que si vous êtes ciblé, que ce soit pour n'importe quoi, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous en veut réellement, donc ça veut dire qu'il va faire en sorte d'adapter l'attaque à des choses que vous connaissez. Un exemple, par exemple, ici, vous êtes chez Bouygues au niveau du téléphone, il va plutôt vous cibler en faisant vraiment une attaque, en spécifiant vraiment l'attaque de Bouygues, en vous disant moi j'ai un problème d'abonnement, que sais-je, on va le voir juste après. Et il y a le dernier qui est le plus embêtant, c'est le piratage de comptes et de serveurs de personnes que vous connaissez. Et là, le problème, c'est que c'est des vrais mails. Et là, à part être intrigué par le fait de vous dire mince, là il y a quand même un truc qui ne va pas sur le mail, il me demande de cliquer sur des trucs, il me demande de l'argent ou autre. Cela, il faut faire super gaffe. Et cela, il y en a vraiment en ce moment à la toque, des attaques comme ça. J'ai juste mis un petit peu en dessous, c'était juste pour voir un peu d'où viennent les spams. Donc on voit un peu quand même, nos chers amis russes sont quand même pas mal. C'est vraiment les sources viennent de Statistica, qui tiennent l'eau du pavé, suivi par les Allemands et les États-Unis. Au début, j'aurais plus pensé Chine et les États-Unis. Bon, finalement, c'est pas mal Russie. Et là, je vais vous montrer le classique, un exemple que vous avez tous connu, justement de type d'arnaque, qui est arrivé par mail. Du coup, le classique, là par exemple, c'est un exemple avec Free, avec un exemple de Free mail qui arrive, qui n'est pas très bien fait, mais bon, qui donne quand même l'idée de voilà, avec une fosse, on va dire, un intitulé qui n'est pas terrible, avec, enfin, pardon, un intitulé de mail, une adresse qui ne correspond pas franchement à grand-chose et qui n'a aucun lien avec Free, et notamment avec derrière un lien qui est ici, qui, si vous passez, on va dire, la souris sans cliquer dessus, va vous donner en fait un nom de domaine, etc., qui n'a strictement rien à voir. Donc ça, c'est justement pour vous alerter, il n'y a rien de mieux. Et sur la droite, un autre type de spam qui est arrivé et qui va vous donner, on va dire, justement, un peu plus de la sensation que vous avez affaire à Free, sauf que c'est pas du tout, c'est quand même pas tout eux. Mais ils ont été malins parce qu'ils ont su, et ça c'est facile à imiter, une vraie adresse, de vous donner une vraie adresse de support de chez Free. Ça pourrait, ça c'est facilement, on va dire, faisable de vous envoyer une fausse adresse. Par contre, voilà, c'est toujours pareil, renvoie vers un site étrange. Donc ça, toujours de la même façon ici, quand vous voyez ce qui compte, c'est de regarder le domaine. Si vous êtes chez Free, bah, il faut qu'il y ait aussi minimum free.fr et pas, par exemple, toto.free.fr, quelque chose. Il faut que ce soit juste le site de Free qui soit visible. Donc ça, voilà, c'est dans l'exemple, il faut vraiment faire gaffe à ça. Là, juste après, on va peut-être passer rapidement, j'ai un peu dit, c'est le finalement comment se prémunir. Donc bien sûr, avoir le navigateur et les logiciels de mail à jour. Filtre anti-spam actif, ça franchement, c'est vraiment le top. Aujourd'hui, beaucoup d'antivirus le proposent ou des services tiers qui vous le propose, et ça en coupe vraiment beaucoup. Donc c'est vraiment, ça c'est vraiment un gros point positif. Ça fait vraiment beaucoup de boulot. Avoir plusieurs mails ou des alias afin de contenir les menaces, ça c'est pour un peu permettre de le mieux, c'est par exemple de dire d'avoir un mail pour la famille, les amis, un mail pour le côté administratif, un mail pour le côté un peu poubelle, tout ce qui va être et les différents sites web sur lesquels vous allez, et quand on vous demande une adresse, et bien en fonction du site sur lequel vous êtes, bien vous mettez l'adresse poubelle ou pas, quoi. Ça, c'est vraiment super important. Si possible, avoir son propre nom de domaine, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même top de pouvoir gérer directement tout soi-même au niveau de la messagerie pour pouvoir se protéger. Utiliser des boîtes mail temporaires, alors ça rejoint finalement un peu le... Ça, l'avoir plusieurs mails, c'est-à-dire que souvent vous allez avoir des sites où vous allez faire des tests, je n'en sais rien, vous avez un truc sur lequel qui vous intéresse, mais vous n'avez absolument pas envie de donner votre adresse, et vous avez bien raison. Donc vous allez utiliser ce qu'on appelle, il y a des sites, il y en a différents, email temporaire, enfin je n'ai plus le nom, je pourrais vous montrer après, qui font très bien le boulot, qui sont une boîte mail qui vous est donnée là, pendant 10 minutes ou 15 minutes, et sur laquelle vous allez pouvoir recevoir vos emails. Et donc, pour procéder à des activations, que sais-je, et donc ne pas donner votre vraie adresse. Ça, à utiliser. Être super vigilant sur ses contacts, notamment, ce que j'ai dit, c'est limiter les CC, c'est les copies conformes, pour ne pas impacter latéralement. Ça veut dire que quand vous répondez à Xmail, je ne sais rien, vous répondez tout à l'heure, par exemple, à Free, vous dites, tiens, je vais avertir en même temps un copain de, je ne sais pas, il y a une offre promotionnelle ou autre. Ben, c'est mieux de ne pas mettre le CC, c'est-à-dire qu'en gros, si vous répondez à un mail, ben, plutôt utiliser, renvoyer à ce moment, si vous tenez à répondre, vous renvoyez avec votre adresse, et vous faites à ce moment un transfert du mail à votre pote ou autre, mais vous ne mettez pas de copie conforme, parce que voilà, vous donnez l'adresse email de votre pote à une société, voilà, à éviter. Autre petite astuce qui est sympathique, d'activer l'ouverture en mode texte sur la messagerie. Alors ça c'est plutôt ici, sur les navigateurs, sur les logiciels mail. Ça va vous permettre d'éviter de lancer tout ce qui est script. Donc ça c'est quand même plutôt simple. C'est pas très pratique parce que ça vous casse un peu la lecture du mail dans l'affichage. Par contre, c'est efficace, ça donne que du texte. Donc derrière. Souvent, comme on le regardait tout à l'heure, on voyait une image pour lancer le truc, mais là, forcément, il y aura le texte et on verra directement que ça ne correspond pas, que c'est quelque chose qui est un site bizarre. Voilà. Et bien entendu, limiter la curiosité d'ouvrir ou tester un lien, est-ce absolument réellement nécessaire de cliquer dessus? La vigilance de mise est vraiment absolument nécessaire. Voilà, et après, c'était ce qu'on a vu juste avant, vérifier l'adresse de l'émetteur, vérifier le corps du mail s'il y a des fautes d'orthographe, un peu pour vous donner, URL ne pas cliquer, vérifier le texte, les pièces jointes, Ah oui, petite astuce, voilà, les pièces jointes, bien sûr, vous ne cliquez pas dessus comme ça. Le mieux, c'est que vous les enregistriez sur le PC et que vous balanciez un coup de scan de l'antivirus. Voilà, ça au moins, ça vous donnera déjà une indication. Et quoi qu'il arrive, tout mail suspect, absolument tout mail suspect qui vous paraît, déjà, vous ne répondez pas, évidemment, et encore moins ça veut le cesser, et vous avertissez un contact technique proche pour vous donner quelques infos et voir son avis. Vous ne savez pas. Dans toutes les, on va dire, la meilleure des manières, c'est de se prémunir en demandant à ceux qui connaissent. Voilà, ça c'est pour la partie messagerie et messagerie temps réel. En sachant que ce que juste je rebondis, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, ok, on a sur la messagerie, c'est la messagerie classique, on reçoit des mails, etc. Mais donc avec des pièces jointes et tout le toutim, mais au final, c'est la même chose sur les messageries en temps réel. Voilà, la on arrive quasiment proche de la fin. La navigation, maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, que j'ai décomposé avec comment on va naviguer, avec quels moyens, est-ce qu'on fait de l'accès direct, est-ce qu'on passe par du VPN, est-ce qu'on passe par Tor. Le gestionnaire de mots de passe, vous allez voir qui est absolument nécessaire. Quelques mots, on va dire, quelques règles de navigation de base et quelques mots sur les réseaux sociaux. Sur l'accès direct. Allez, un petit schéma pareil fait à la main, fait maison. Quand vous êtes sur Internet, alors on va prendre l'exemple typique du smartphone. Quand vous êtes connecté à Internet, c'est vous avez la porte d'entrée d'Internet qui est directement connectée sur Internet. Donc ça veut dire que là, j'ai fait un petit traçage. Ça, c'est ce qui est visué, qui peut être visualisé directement par les FAI, les États, enfin bref, tout le monde. À ce niveau-là, on peut savoir voir qui vous êtes. Donc, vous avez toujours, quand vous vous connectez sur Internet, toujours, quoi qu'il arrive, une adresse IP qui vous caractérise. Donc, quand vous êtes avec un smartphone, techniquement, vous pouvez aussi lancer un VPN, mais par défaut, la majorité des gens, ils sont connectés, on les voit, ils sont traçables directement avec leur adresse IP et surtout, attaquables directement, quoi. Les smartphones, ça reste des passoires. Bref. Quand vous êtes avec le cas du PC, le cas le plus commun de la maison, c'est le routeur à la maison, la Livebox, qui fait effet de porte d'entrée, donc qui est visible avec l'adresse IP. Et tout ce qu'il y a derrière, c'est masqué par le réseau local. Enfin, c'est masqué à la hauteur de quand vous vous connectez, il y a quand même derrière toujours cette adresse qui est vue, quoi qu'il arrive. Donc on sait quand même que c'est vous. Donc pour après naviguer, on va dire, de façon un peu plus sécurisée, question à chaque fois on se dit est-ce que c'est important ou pas de se connecter avec un VPN? J'aurais tendance à dire que oui. Ça reste quand même aujourd'hui les VPN, c'est vraiment des outils qui sont de plus en plus facile à utiliser, vraiment qui se lance avec le système, avec clic de souris intégré. Enfin bref, c'est très très facile, on choisit où c'est qu'on veut se connecter. Le VPN, du coup, c'est quoi? C'est, pour revoir, c'est on a le PC chez soi avec sa box, avec une adresse IP, comme tout à l'heure, qui est vue sur Internet. Par contre, quand on lance toutes nos connexions et on va dire, tout notre dialogue qu'on fait sur Internet est vu, lui, uniquement par une adresse qui va changer à chaque fois, qui ne sera pas la même en fonction de là où on se connecte. Et ça veut dire que, techniquement, les FAI, les États, enfin bref, tous ceux qui surveillent, par défaut, eux, ce qu'ils voient, c'est ça. Donc c'est pour ça que souvent, quand vous allez faire, je ne sais pas, du téléchargement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'être masqué par une adresse par rapport avec un VPN, c'est ce qui va vous protéger à minima. C'est pas de l'anonymat pur et dur, mais ça donne, on va dire, un trait d'anonymat qui va vous permettre de sécuriser. Et après, il y a le cas de Tor. Tor, j'ai essayé de résumer ça de façon, on va dire, schématique. Tor, c'est toujours pareil. Donc, on revient avec notre PC, notre connexion chez nous, avec un browser qui s'appelle Tor. C'est du Firefox qui a été remanié pour pouvoir se connecter sur Internet et qui passe en fait par cette grosse boîte noire qui comporte en fait plein de nœuds. Et c'est en fait tout le dialogue réseau va passer, on va dire, par ces nœuds pour après, à un moment donné, venir se connecter sur Internet et accéder à votre site, enfin à un site. Et là, par contre, ben, c'est pour ça, ça c'est particulièrement utilisé par tous ceux qui ont besoin à tout prix de protection et de vraiment être cachés d'Internet et des États, etc. Donc, il y a une grosse difficulté de pouvoir vous remonter. C'est compliqué, mais pas infaisable. Donc, il y a toujours un risque. Bref, voilà, c'était pour vous présenter, vous dire voilà, les différentes possibilités. Moi, j'aurais tendance à dire, celle-là, elle est pas mal, de base, pour monsieur, même pour monsieur tout le monde, de l'avoir. Sujet à discuter après. Voilà. Les gestionnaires de mots de passe, je rebondis sur tout à l'heure ce que je disais. Chaque site web, un mot de passe absolument nécessaire pour permettre en fait de ne pas vous faire un effet domino. C'est-à-dire souvent on entend, il y a des gens qui donc un seul mot de passe ou peu de mots de passe qui sont les mêmes pour tous les sites, ben, c'est catastrophe. Si vous faites pourrir sur un site, ben, techniquement ils ont accès à tout le reste. Donc vous imaginez ce qui se passe s'ils ont accès à votre banque ou qu'ils ont accès à vos données de santé, etc. En se connectant sur Amélie. C'est vraiment pas génial du tout. Donc, il y a ce petit outil qui s'appelle KeePass, qui a été même qui est conseillé par l'ANSSI, qui est organisme justement français qui s'occupe de donner des conseils et qui fait en même temps de la cybervigilance. C'est un outil qu'on va les télécharger, je vous passerai les liens, qui est ultra simple à utiliser, qui se présente comme ça, avec une petite base de données. Vous choisissez en fait ce que vous voulez au niveau des petits répertoires pour mettre en fonction de ce que vous voulez faire, de l'administratif, de l'internet, des mails, que sais-je. Et à l'intérieur, vous venez mettre les différentes entités de connexion. C'est, voilà, on le voit, c'est ultra simple à utiliser. Et ça, en fait, c'est protégé par contre par un vrai mot de passe que vous maîtrisez. Donc un vrai mot de passe complexe. Là, à l'intérieur de cela, vous pouvez faire même laisser des mots de passe vraiment pour le coup qui sont générés aléatoirement parce que vous allez vous appuyer dessus. C'est l'outil en fait sur lequel vous allez vous appuyer, c'est lui qui va faire la connexion directement sur les sites web. Donc à utiliser vraiment sans modération et même fortement conseillé. Voilà, et puis on passe sur les quelques règles de navigation absolument à connaître. Pour tout site web, le classique, c'est le mantra, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc c'est tout site, on ne va pas dire, il y en a quelques-uns forcément où on a besoin, même si on est le produit. Donc c'est pour ça que j'ai mis à consommer avec modération et notamment lire la charte. Exception faite, voilà, pour le monde de l'open source où... on a souvent des produits gratuits. Attention, open source, ça ne veut pas dire que les produits sont gratuits. Hein. On l'entend souvent, ils peuvent être vendus, mais souvent, il y a beaucoup en effet de produits qui sont gratuits. Donc, méfiance tout de même. Comme je disais tout à l'heure, ne pas penser à utiliser en fait un service de VPN pour se connecter sur l'Internet. Il y a même des extensions qui sont possibles depuis les navigateurs, Firefox, Chrome, etc. Vous n'avez pas besoin de le lier au système, c'est uniquement le navigateur qui fait la connexion. C'est assez sympa. Du HTTPS tout le temps. Le HTTPS, c'est ce qui vous, si vous êtes en HTTP, ça veut dire que vous êtes en train de dialoguer, de dire bonjour, salut, etc. Tout ça, c'est lisible sur le réseau en direct. Alors que si vous passez en HTTPS, ça veut dire que tout est chiffré, absolument tout. Donc c'est pour ça que ça, c'est aujourd'hui, tous les sites de plus en plus maintenant basculent là-dessus. Il y a des options qui sont très sympas de plus en plus maintenant sur les navigateurs modernes, que ce soit Chrome, que ce soit Firefox, etc., où il y a de l'option d'isolation des onglets. Ça veut dire que chaque onglet, quand vous naviguez, sont bien isolés. Et que si vous faites hacker d'une façon ou d'une autre, enfin, c'est pas hacker, mais qu'en gros, un site web, pour X raisons, sait utiliser une technique qui va après interroger votre navigateur et que vos onglets ne sont pas isolés, mais il peut un peu dialoguer et voir un peu qu'est-ce que vous faites sur vos autres connexions. Donc ça, c'est une option, je vous montrerai aussi, qui s'active assez facilement. Voilà, isolation, super important. La navigation en mode privé, c'est une option qui vous permet, pareil, qu'il y a sur tous les navigateurs, qui vous permet de naviguer vraiment de façon sans laisser de traces. Ça veut dire que vous connectez sur un site, sur votre PC, il ne laisse déjà aucune trace et en plus, il bloque vraiment nombre de données. Ou sinon, comme je disais, vider le cache régulièrement. Vider le cache, c'est en gros, c'est toutes les données que vous avez quand vous naviguez. Ben, au fur et à mesure, si vous n'avez pas ça, ben, il va stocker. Déjà, ça va au fur et à mesure ralentir votre navigateur. Donc, le vider régulièrement, ça fait partie des préconisations aussi que conseille l'ANSI, etc. Pour chercher les sources, toujours voilà, se référer au site éditeur constructeur, pas autre chose. Vraiment méga important. Quand vous vous connectez, bien vérifier le domaine dans l'URL, que vous êtes par exemple, sur Microsoft, je ne sais rien, Microsoft et pas sur toto.microsoft.fr. Toujours bien vérifier qu'on est sur le domaine de l'éditeur. Restez bien sûr vigilant quand vous avez des domaines inconnus ou des domaines avec des extensions un peu bizarres. Il en existe de plus en plus maintenant. Sur tous les sites, le plus possible, utiliser la double authentification, c'est permettre de vous authentifier avec à la fois un mot de passe qui vient vous mettre login, mot de passe, et qui en général, soit vous l'avez sur les banques, mais ça est en train de changer, vient vous faire une petite demande de SMS pour confirmer que c'est vous, ou un mail qui arrive sur votre mail perso pour vous demander toujours pareil si c'est vous et éventuellement avec un petit code. Peut-être pas sur tous les sites, mais en gros, à utiliser en tout cas sur tous les sites sensibles. Limiter bien sûr le plus possible les informations personnelles sur n'importe quel site. Forcément, ça va de pair avec ce que j'ai dit jusque maintenant. Pensez en effet aux boîtes mail temporaires pour dès qu'il y a des formulaires et que vous n'avez pas trop envie que, voilà, je sais pas, vous êtes sur Cdiscount, je ne sais rien, un premier site qui vient, qui vous demande des infos. Paf, les mails temporaires. Super important. Et après, bien sûr, c'est plus des petits outils, mais qui sont là aussi. Tout est absolument nécessaire, j'ai dû le dire un paquet de fois. l'utilisation des favoris dans votre navigateur pour vous permettre de ne pas rechercher à chaque fois les sites de votre banque, etc. Et en plus, l'avantage, c'est qu'une fois que vous l'avez, vous êtes sûr de votre lien. Vous avez la possibilité de les synchroniser, c'est très très pratique, c'est-à-dire que vous utilisez votre PC ou après vous utilisez votre smartphone, hop, avec un compte de synchro, ça vous permet d'avoir tous vos, on va dire, tous vos contacts, contacts, mais surtout vos favoris, directement remontés directement sur le smartphone, ça évite de faire de la recherche, très très pratique. Un truc absolu aussi, on ne stocke pas de mots de passe dans le navigateur. Ça, c'est pareil, ça fait partie des règles de base. Même s'il vous le propose, vous pouvez en stocker vraiment pareil. C'est ceux où vous acceptez éventuellement de vous faire hacker. Ça n'a pas de grosse incidence, mais en aucun cas des mots de passe de banque ou j'en sais rien. Ça, pas de stockage dans le navigateur. Les extensions qui sont nécessaires. Alors, il y en a vraiment trois qui sont absolument nécessaires. C'est les bloqueurs de pub. Les bloqueurs de cookies et les bloqueurs de script. Ça demande, surtout pour celui-là, un peu de connaissances techniques, mais ceux-là sont vraiment, pour le coup, les plus faciles. Les bloqueurs de pub sont là, comme par exemple uBlock, uBlock Origin, AdBlock, etc. font du très bon boulot. C'est une extension que vous venez rajouter dans le navigateur et qui va empêcher tout le traquage, les merdouilles que vous allez récupérer en allant sur nombre de sites. Un exemple tout bête, vous allez sur le site du Bon Coin, vous avez des pop-up de partout, ça vous les enlève, toutes les pubs, etc. Tout ce qui est cookies en particulier aussi. Il y en a un que j'ai pas mis, qui faudra que je rajoute, qui va bloquer toutes les remontées d'informations de quand vous allez sur un site. Il y a plein de. Aujourd'hui, le problème d'Internet, c'est quand vous allez sur un nombre de sites qui ont plein de dépendances. Des dépendances, c'est-à-dire qu'ils s'appuient sur des scripts qui sont par exemple hébergés chez Google, chez je ne sais rien, chez Microsoft, etc. Et ces scripts, en fait, ils sont capables de vous remonter et de faire de la récupération d'informations sur vous. Et ça, en fait, c'est une extension qui vient en gros chercher uniquement ce qu'il a besoin dans le script, venir le mettre sur votre ordinateur et en gros ne jamais aller sur le site web d'origine pour aller récupérer. Enfin, ne plus aller sur le site web d'origine pour aller faire de la récupération d'informations de diverses navigations, etc. Et le bloqueur de script, celui-là, c'est le must, mais qui est le plus contraignant, c'est que vraiment, il coupe tous les scripts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grosse faille de tous les navigateurs, c'est le JavaScript, qui est un langage qui est intégré dans tous les navigateurs et qui permet de faire beaucoup de choses, mais donc notamment beaucoup d'interactions avec l'utilisateur. Mais qui dit beaucoup d'interactions dit aussi ben, beaucoup de potentielles failles de sécurité et justement, ben, c'est un peu tout ce que vous voyez quand vous allez sur un site avec X pop-up qui vont sauter dans tous les sens. Ben, c'est ça, en général, qui va vous le faire. C'est le JavaScript. Et bon, après, voilà ce que je disais, c'est quand même, c'est bien d'avoir des extensions, mais il faut un peu limiter le nombre parce qu'après, derrière, c'est votre navigateur qui rame et même ça peut même poser des soucis de sécurité. Voilà. Voilà pour un brossage de tableau des règles de navigation. Et on arrive quasiment sur la fin avec quelques mots sur les réseaux sociaux. Alors, pareil, hein, ça sera, à mon avis, objet d'un autre livre blanc. Si, ce que je dis toujours pareil, si c'est gratuit, c'est toi le produit, surtout avec eux, mais alors vraiment eux. Eux, ils récupèrent absolument tout, c'est des pompes à donner comme c'est pas possible. Bien prendre conscience que si, que c'est quand vous abreuvez tout ce que vous donnez comme données, ben, c'est donc forcément déjà ils s'en servent. Et plus vous en donnez, plus vous donnez des informations sur vous, plus ils ont la capacité de vous cibler pour vous, alors pour diverses. Objectifs de la publicité ciblée, du marketing, etc. Et en gros, mieux vous connaître, comme je disais, c'est mieux vous manipuler. Le meilleur exemple pour ça, c'est la campagne de 2016 aux USA avec l'élection de Trump et le scandale de Cambridge Analytica qui a utilisé justement Facebook pour manipuler les gens en connaissance de cause, en sachant exactement comment ils étaient sensibles à certains types de publicités ou certaines, en fonction de leur parti pris d'un côté politique. Eh bien, ils ont, pour chacun, de façon complètement automatisée, ils ont pu, on va dire, retravailler des messages pour faire voter justement pour Trump. Bref, c'est une manipulation qui a éclaté et qui est assez documentée. Donc ça, on pourra pareil vous passer les liens et vous montrer. Bref, les réseaux sociaux. Attention. Autre point super important dans les réseaux sociaux, le premier truc que vous allez faire, que ce soit Facebook, Twitter, LinkedIn ou autre, premier point sur lequel au moins vous pouvez aller regarder, c'est d'aller immédiatement aller regarder dans la petite, en général, le petit roue cranté option vie privée sécurité et d'aller décocher le maximum de choses et de gérer vous-même. L'accès à vos données. Donc ça, vous pouvez y aller généreusement, à tout mettre à off et d'y aller après, d'ouvrir petit à petit ce dont vous avez besoin. Et ce que je disais aussi que tout à l'heure, n'hésitez pas, surtout avec eux, ça vaut le coup, vu qu'on a le RGPD et nous qui nous protège, ne pas hésiter à demander un rapport de vos données pour savoir en fait qu'est-ce qu'ils ont sur vous. Pour ceux qui ont beaucoup communiqué, qui les ont beaucoup utilisés, je pense que ça sera une source d'infos qui sera intéressante pour savoir en fait un peu qu'est-ce qui se passe sur vous. Alors, vous attendez pas, il y a beaucoup, moi j'en avais demandé un, il y a beaucoup, quand ils vous l'envoient, par contre, il y a en effet un beau rapport de au moins 50 ou 60 pages, il y a un peu de tout, des informations techniques, etc. Mais c'est intéressant, de quoi qu'il arrive, de le demander et de creuser. Voilà, pour les réseaux sociaux, c'est pareil, le but c'est pas d'épiloguer ce soir, et puis on a déjà bien avancé. Dernier point, c'était le dernier sujet que je voulais aborder, l'auto-hébergement avec les plus et les moins. C'est quoi l'auto-hébergement? C'est de pouvoir maîtriser les données chez soi, c'est par exemple d'avoir par exemple un petit NAS ou son propre serveur personnel, ou éventuellement son propre serveur de messagerie à la maison. Donc les gros points plus, c'est vous pour le coup qui maîtrisez entièrement votre solution. Donc côté efficacité et maîtrise des données, ben, forcément, comme vous contrôlez tout de A à Z, ben, c'est top. Vous pouvez le faire évoluer et l'optimiser comme vous le souhaitez. Donc c'est vous qui maîtrisez aussi l'aspect financier, etc. Par contre, ben, le gros moins, c'est que un, ça demande du matériel en plus et un savoir-faire technique qui peut être assez conséquent. Même si les premiers NAS aujourd'hui font du très bon boulot, ça permet d'avoir accès facilement. Mais attention, parce que c'est pour ça que je mets de suite attention forte à la sécurité. Parce que les risques sont à votre charge, très clairement. Là, autant quand vous avez les informations qui sont gérées dans le cloud, bon, en général, c'est que vous vous appuyez sur quelqu'un qui vous paye. Bon, en général, c'est lui qui a la charge de cette sécurité. Normalement, il doit le faire quand même correctement, surtout si vous avez affaire à quelqu'un de sérieux. Et ça demande un entretien et un suivi, surtout un suivi conséquent. C'est ça, c'est que c'est pas le tout de l'avoir, d'avoir la solution chez soi pour maîtriser. Il faut l'entretenir et c'est un travail au quotidien. C'est un suivi de mise à jour, de suivi des logs et d'analyse potentielle en cas d'attaque pour savoir en fait débrancher. Donc ça, il faut être vigilant. Voilà. Donc là, c'est vraiment le but, c'était vraiment de vous en parler en brossant, pareil là aussi le sujet rapidement. Et on en arrive donc sur la fin de la présentation. Et du coup, on va pouvoir passer aux questions si ça vous va.